France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, je vous propose aujourd'hui un voyage vers une des destinations favorites des Français, la Grèce. Mais je vous demande d'oublier un temps la carte postale, littoral et même les richesses architecturales pour le patrimoine musical. La musique qui fut pour les deux pays un fructueux terrain d'échange, échange dont on ne connaît que quelques figures marquantes telles Xenakis, Theodorakis ou Nana Mouskouri. Musicien grec formé ou installé en France, mais aussi musicien français fasciné par la Grèce, c'est à ce voyage à double sens que je vous invite, guidé par un fin connaisseur de la Grèce, de sa culture, de sa musique, Christophe Corbier, qui a co-signé le catalogue d'une passionnante exposition. Le voyage des musiciens, deux siècles d'échanges franco-grecs, in fine édition d'art. Frédéric Anglerot au violon, François Kilian au piano, c'était un Bulgarikos extrait de la suite sur des airs populaires grecs, opus 10, de Maurice Emmanuel. Bonjour Christophe Corbier.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche au CNRS, grand connaisseur de Maurice Emmanuel notamment, et aussi spécialiste de la réception de la musique grecque. Et vous avez donc co-signé, je l'ai dit, avec Vassiliki Mavroaidiko Castellana et Panayota Anagnostou, j'espère que j'ai écorché aucun nom, le catalogue donc de cette exposition qui s'est tenue à la Villa Karylos jusqu'au 17 octobre dernier. En deux mots, la Villa Karylos, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, de quoi s'agit-il ?
La Villa Karylos est une magnifique demeure de la Côte d'Azur, à quelques kilomètres de Nice, à Beaulieu-sur-Mer. Elle a été conçue par le grand spécialiste de la musique grecque antique de l'époque, en 1902, Theodore Renac, et construite donc dans les premières années du XXe siècle. Et il était tout naturel qu'une exposition consacrée aux relations franco-grecques, et en particulier dans le domaine musical, se tienne dans cet endroit splendide.
Alors, peut-être faut-il expliquer le titre. Deux siècles d'échanges franco-grecs, la date n'est évidemment pas fortuite. Deux siècles, donc ça veut dire ça nous ramène en 1821.
Exactement, à l'origine de cette exposition, avec Vassiliki Mavroidakou Castellana et Panayota Anagnostou, nous avions l'intention de célébrer à notre manière le bicentenaire de ce qu'on appelle la Révolution grecque et de la guerre d'indépendance qui s'en est suivie entre 1821 et 1829.
Donc la Grèce qui voulait s'extraire donc de l'Empire ottoman.
Exactement, avec le soutien en particulier des Philhellènes et de ce qu'on appelle souvent les grandes puissances européennes, à commencer par la France. Mais plutôt que de nous livrer à une célébration nationaliste, nous avons choisi une autre entrée. Et dans l'exposition et dans le livre que nous avons conçu, il s'agissait de montrer la richesse véritablement extraordinaire de ces échanges dans le domaine musical entre les musiciens français et les musiciens grecs depuis environ 2 siècles.
Alors j'ai présenté le livre comme un catalogue d'exposition. En fait, c'est bien plus que ça et on peut se plonger dedans sans avoir vu l'exposition. C'est vraiment un livre en soi qui est vraiment un très beau livre. La qualité de l'iconographie est superbe, la qualité de la reproduction des photos. Il y a beaucoup de photos, de très très belles photos en noir et blanc. Et on découvre, enfin moi j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de grands photographes grecs qui avaient immortalisé leur pays.
Exactement. Alors, l'idée du livre, c'était également d'aborder la musique d'abord par la photographie. Et au cours de nos recherches et nos voyages en Grèce et en France, nous avons découvert ou redécouvert de grands photographes, très connus certains, comme Willy Ronis ou Henri Cartier-Bresson, évidemment.
Ceux-là, on les connaît, oui.
Ils sont très connus, et qui ont fait le voyage en Grèce et qui surtout ont pris des photographies de ce qu'on pourrait appeler des scènes musicales. Et du côté grec, nous avons aussi des photographes comme Kostas Balafas, un des protagonistes de la photographie en Grèce, mais également des photographes de l'agence MacDom comme Nikos Economopoulos, qui ont photographié leur pays dans les différentes régions et qui ont immortalisé de nombreuses scènes musicales. Et puis on va trouver également, pour finir, des personnalités comme Jacques Lacarrière, très connu de tous les amoureux de la Grèce, livre L'été grec en particulier, ou son dictionnaire amoureux, qui a lui aussi photographié beaucoup la Grèce à partir des années 50, et qui a pris souvent des scènes avec des musiciens ou des vocations sonores.
Christophe Corbier, quand vous évoquez ces photographes grecs qui ont pris donc des scènes musicales, comme vous le dites, qu'est-ce que c'est? Alors c'est dans des villages, des danses, c'est dans des cafés, ce sont des réunions de famille, quel genre d'événement? Un peu tout ça.
Un peu tout, effectivement. C'est-à-dire que on peut trouver aussi bien des enquêtes de type ethnographique, dans lesquelles perce, par exemple, chez Kostas Balafas, le sentiment qu'un monde est en train de disparaître et qu'il est urgent, dans les années 50 ou dans les années 60, de photographier une mémoire qui s'efface petit à petit sous l'avancée de l'urbanisation et l'occidentalisation des mœurs. On a aussi une grande photographe qui s'appelait Nélis, enfin c'est un pseudonyme.
Nom est un peu... c'est un chaussetrap, on va dire.
Voilà, donc elle est connue sous le nom de Nélis, fait beaucoup de portraits dans son studio. Et par exemple, on va trouver un portrait d'Alfred Cortot et de Jacques Thibault, avec une dédicace des deux grands musiciens en 1934, ou un portrait du grand chef Mitropoulos à New York en 1944.
Avec sa tasse de café.
Exactement. Thank you.
de Sakafilias de Vassilis Tsitsanis, par Vassilis Tsitsanis, qui chante en s'accompagnant au bouzouki. Christophe Corbier, peut-être quelques mots sur ce compositeur, né en 1915 et mort en 1984. C'est vraiment une figure dans la culture populaire grecque, et dans la culture grecque tout simplement.
C'est le roi Tsitsanis auquel Vassiliki Mavrodakou-Castellana a consacré un article avec l'autre grand nom de ce genre musical, le Rebetiko.
On en parlera tout à l'heure.
Voilà, Marcos Vamvakaris. Mais Tsitsanis est véritablement, effectivement, le roi. Alors cet enregistrement que nous avons entendu a aussi une histoire, ce qui nous permet de rappeler que dans ce grand panorama des relations musicales franco-grecques, le son et la diffusion du son et des enregistrements sonores ont été véritablement très importants, comme le rappelle ma collègue Panayota Anagnostou. C'est un enregistrement qui a été réalisé pour la collection Okora.
Tout à fait, oui.
Par le grand ethnomusicologue Simra Arom, qui a, quelques années avant la mort de Tsitsanis, qui décède en 1984, enregistré les grands succès de ce Rebetis, qui était donc très connu depuis les années 1940 en Grèce.
Ouais.
Alors Tsitsanis a révolutionné le Rebetiko, qui à l'origine, d'après le grand récit des origines de ce genre musical, est né au Pirée, dans les années 1920, après l'arrivée de réfugiés de Smyrne, après la grande catastrophe de 1922. Mmh. Et Tsitsanis a été une figure très connue à partir des années 1930-1940, et surtout une figure qui a été adoubée par les deux grands noms de la musique populaire grecque, Manos Hatzidakis et Mikis Theodorakis, à partir de 1949 et dans les années 50. Et Tsitsanis est une véritable star à ce moment-là, en Grèce, et mm-hmm. connu pour tous ses succès qui sont encore chantés jusqu'à aujourd'hui.
Ouais. Alors il y a ce versant, et puis il y a aussi la musique, on va dire, plus classique, entre guillemets, avec ces compositeurs grecs qui sont venus étudier en France au début du siècle, comme par exemple Spyros Samaras, mais d'autres, le mouvement ne s'est jamais arrêté, Christophe Corbier, de ces compositeurs grecs qui sont venus parfaire leurs études en France.
Alors effectivement, l'autre aspect de ce voyage, c'est le voyage des musiciens grecs vers la France. Et dès les années 1880, on note la présence donc de Spyros Samaras, qui était un grand compositeur de la fin du Xe siècle, et qui a suivi au conservatoire les cours de Léo Delibes. Et après Samaras, nous avons un mouvement, on repère un certain nombre de compositeurs qui sont présents à Paris, comme beaucoup d'autres compositeurs étrangers du reste. Et on peut citer par exemple le nom de Emilios ou Émile Riadis, qui avant la Grande Guerre sera l'élève de Maurice Ravel pendant plusieurs années.
Ravel qui s'est intéressé à la culture grecque avec ses cinq mélodies grecques.
Ouais. Exactement, ouais. Les cinq mélodies grecques de Ravel qui datent donc de 1904-1905. Donc Riadis le rejoint donc vers 1910, peut-être pour cette raison. Et le mouvement ne s'interrompt pas, puisque après la Grande Guerre, nous avons un certain nombre de compositeurs qui viennent à Paris diffuser ce qu'on appelle à l'époque la musique néo-grecque, donc une musique classique européanisée, dont l'un des chefs de file s'appelle Manolis Kalomiris. Et on sait qu'ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, nous retrouverons de nouveau à Paris les grands noms de Yannis Xenakis et Mikis Theodorakis, qui sont tous les deux passés par la classe d'Olivier Messiaen. Le premier, un élève assez fidèle, le second, un élève plutôt rebelle.
Thank you.
aller-retour entre la France et la Grèce avec ce AR, à Ravel de Yanis Xenakis par le pianiste Stéphanos Thomopoulos. Il y a d'ailleurs, Christophe Corbier, un entretien, enfin un portrait de ce pianiste à la fin de l'ouvrage que vous avez co-signé. Donc des musiciens, mais aussi vous avez signé dans cet ouvrage collectif hein, qui réunit une quinzaine de signatures, je crois que c'est ça, un chapitre, entre autres, consacré aux chanteuses grecques. Bon, évidemment, la plus connue, c'est la Callas, qui orne d'ailleurs la photo de couverture hein, du livre. C'est Tosca à Paris en 65, je crois.
C'est ça, 65.
À l'Opéra de Paris. J'ai cité en introduction Nana Mouskouri, mais il y en a d'autres que l'on connaît peut-être aussi bien ou moins. Christophe Corbier.
Oui, effectivement, Maria Callas et Nana Mouskouri sont les deux grandes figures de la chanson
et donc, de l'art vocal,
grec au féminin.
De Grèce, ouais.
Mais en France, il faut aussi saluer la mémoire d'Angélique Ionatos, qui vient de nous quitter il y a quelques semaines, ouais. Et qui était très connu, qui avait un public très fidèle, et qui a toujours, je pense, par la chanson, un public très fidèle en France.
Qui donnait régulièrement des concerts, notamment au Théâtre de la Ville, choses comme ça.
Théâtre de la Ville, et Théâtre de Sartrouville, ouais, et qui s'était distingué en 1991 avec son album sur Sappho de Mytilène.
Tout à fait, oui.
Avec la grande chanteuse Nena Venetsanou, qui était une amie d'Angélique Ionatos, une proche de Mikis Theodorakis, et qui nous a fait aussi l'honneur de contribuer par un court texte poétique à notre ouvrage collectif.
Et est-ce que, Christophe Robier, comment est-ce que l'histoire politique de la Grèce s'est répercutée sur l'art? Est-ce que les artistes ont suivi le cours de l'histoire, le cours de cette histoire quand même au XXe siècle assez agitée de la Grèce, pas seulement la dictature des colonels entre 67 et 74, mais depuis, si on monte à 1821, puisque votre livre commence à cette époque, c'est un pays qui a connu une histoire quand même très, très mouvementée.
Oui, c'est très mouvementé et je ne peux que renvoyer au livre où nous abordons la question du rapport entre la musique et la politique qui a pris des proportions absolument considérables au XXe siècle.
On pense à Théodorakis notamment.
Ouais. Théodorakis et Xenakis, oui. Qui ont tous les deux payé dans leur corps et dans leur vie leur engagement politique. Je rappelle que Xenakis a été blessé en 1944 lors des émeutes de décembre qui ont posé les résistants communistes grecs à l'armée britannique qui les réprimait violemment dans les rues d'Athènes et que Xenakis était défiguré et qu'il a porté le stigmate de cet engagement toute sa vie. Mmh. Et Théodorakis, de son côté, lui aussi communiste, a été emprisonné dans les pires camps de rééducation, comme on le disait à l'époque, entre 1947 et 1949, alors qu'il pensait venir déjà à Paris poursuivre ses études musicales. Et qu'ensuite, on sait qu'il a été de nouveau placé en détention et en résidence surveillée lors de la dictature des colonels entre 1967 et 1970, avant de s'exiler une nouvelle fois à Paris en 1970, accueilli grâce à l'action en particulier de Jean-Jacques Servan-Schreiber.
Et Théodorakis, qui nous a quittés donc il y a quelques semaines, dont les portraits qu'on a pu lire ici ou là étaient parfois en demi-teinte. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur le personnage? Grand compositeur dont on ne connaît vraiment que quelques airs, en tout cas en France, qui a œuvré dans tous les domaines, Théodorakis.
Oui, c'était une personnalité absolument hors norme. Je rappellerai simplement que 3 jours de deuil national ont été décrétés en Grèce début septembre, après son décès, et que sa stature d'homme politique très controversé aussi bien en Grèce qu'à l'étranger, sa stature de compositeur, dont le nom est trop souvent réduit à quelques musiques de film, on pense évidemment à Zorba le Grec et Sirtaki, mais bien entendu, son nom peut se réduire à ces quelques musiques qui ont été fondamentales dans les années 1960, hein, folklore planétaire, disait Edgar Morin à l'époque. Mais son œuvre, évidemment, est d'une ampleur considérable et... En 2 mots, on ne peut pas véritablement résumer la richesse d'une existence aussi intense. Ouais, ouais. Mais c'est un homme qui a été absolument considérable pour l'histoire de la musique grecque et pour l'histoire politique de la Grèce. Quoi qu'on puisse penser de ses engagements. Thank you.
nella perna ma gli cagli ca la figlia che to cara ma na strivo ya repeti chi foglia uppa
Nikos Syros qui chantait en s'accompagnant au bouzouki, qui chantait toujours avec du bon hashish, une chanson probablement de Dimitris Gogos, 1903-1985. C'est extrait d'un album Okora intitulé « Chansons des fumeries et des prisons ». Christophe Corbier, donc on revient au rebetiko, cette forme de musique populaire grecque, vous l'avez dit, apparue dans les années 20, donc suite à cette grande vague migratoire dans les années 20.
C'est cela.
Tous ces artistes qui ont quitté leur pays ou qu'est-ce qui s'est passé exactement alors, en deux mots?
Alors en deux mots, il est très difficile de résumer les origines mythiques et réelles du rebetiko, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des spécialistes s'accordent à dire que ce genre musical s'est développé dans les années 1920, en particulier dans le port du Pirée, donc ouais. En Athènes, ouais. À la suite d'un afflux de réfugiés. Alors il y a certaines théories qui sont remises en cause, mais disons que l'idée principale est celle-là. Il faut savoir qu'en 1922, la Grèce subit une profonde défaite face à l'armée turque de Mustafa Kemal, mm-hmm. et que la ville de Smyrne est incendiée, une ville qui comportait une très importante communauté grecque.
Ouais, d'accord.
Et ce qui occasionne un afflux considérable de réfugiés de Smyrne et de toute l'Asie mineure vers le territoire grec. On parle de plus d'un million de réfugiés pour une population qui comptait à l'époque environ 4 ou 5 millions d'habitants.
Ah oui, donc c'est considérable en effet. Oui.
Donc
ouais.
Il a fallu absorber tous ces réfugiés qui vont apporter avec eux également donc des pratiques musicales qui vont donner naissance ou qui vont contribuer plutôt au développement du rebetiko. C'est un style musical et donc qui va être également peu apprécié de la bourgeoisie athénienne européanisée qui coûtait davantage les Saint-Saëns et Calomiris. Ouais. Et les premiers chanteurs vont être l'objet d'une censure sous la dictature de Metaxas entre 1936 et 1941 pour immoralité.
Mmh. D'accord.
Et par ailleurs, dans les années suivantes, le rebetiko sera de mieux en mieux accepté, en particulier, comme j'ai dit tout à l'heure, ouais. grâce à la figure de Vassili Tsitsanis.
Et aujourd'hui,
le rebetiko reste, ouais. Reste un genre pratiqué. Il y a un documentaire consacré à Marcos Vamvakaris d'un réalisateur, Nikos Karezos, qui a montré toutes les reprises en Grèce, toutes les reprises possibles des grands tubes ou des grandes chansons de Vamvakaris par des artistes venus ouais. du monde entier.
D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Christophe Corbier. Je rappelle que vous avez co-signé avec Vassiliki, Mavroidakou, Castellana et Panayota Anagnostou Ce voyage des musiciens, deux siècles d'échanges franco-grecs, très très beau livre, magnifiquement illustré, que vient d'éditer In Fine Édition d'Art. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, la technique Romain Lenoir, attaché de production Annick Aumier. Excellente journée, même excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.